Mémodio, une mémoire sonore.
Il nous reste une vingtaine de minutes si, pour que ce soit à vous de prendre la parole. Oui, déjà. Donc, si vous avez des questions pour Olivier Loub et Jean Vigreux, n'hésitez pas.
Merci beaucoup. J'en reviens au Front populaire en France. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur le programme du Front populaire ? Parce qu'en fait, on arrive à l'idée, ils ont fait beaucoup de choses, il y avait les grèves, finalement, ils ont bien été obligés de faire ça. Eux, ils n'avaient aucune idée, et ce n'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de choses ont pu être faites, c'est qu'elles avaient été sérieusement préparées et mises en œuvre. Donc, je veux dire, je pense que c'est important de dire quelques mots sur ce qui était prévu. Alors, ils ont fait plus que ce qui était prévu. Mais il y avait quand même un programme précis.
Vous avez parlé de la semaine de 40 heures, donc qui est décidée en 36. Alors moi, je commence à travailler en 70, et ce n'est pas 40 heures, c'est 48, on me dit. Hein ? Bon, moi, je refuse, mais normalement, enfin, on cherche à faire ce que les gens travaillent 48. L'horaire plus ou moins officielle, c'est 48. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est ça, question.
Oui, alors c'est intéressant, ça. Il y a autour du Front populaire toute une série d'éléments qui conduisent à l'interpréter comme une expérience, on dit quelque chose qui était un peu fugace, ou comme un élément donc de conjoncture, et que seule la conjoncture permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, ça enlève tous les amonts dont on a parlé pour ce qui est de l'amont social, dont on a parlé pour ce qui est de l'amont culturel, hein, tout le mouvement des éducations, et qui, pour ce qui est du programme politique, est encore autre chose. Moi, je vais juste te dire, parce que c'est toi qui en sais plus, que malgré tout, dans cette discussion à trois, il y avait des lignes que le parti radical ne souhaitait pas avoir franchies. Et c'est ce qui fait que les grèves ont été additives. Mais en revanche, ces grèves, elles s'appuient sur des éléments, non pas du programme du Front populaire lui-même, mais des éléments des deux partis, qui est le Parti communiste et le Parti socialiste, qui, eux, pour le coup, étaient très bien connus du mouvement social, etc. Donc, pourquoi est-ce que le programme a pu être dépassé ? C'est parce que, d'emblée, il est un programme de compromis avec, évidemment, pour le Parti radical, la barrière absolue de la propriété privée. Ce qui, pour les deux autres partis, en revanche, n'est pas du tout une barrière, c'est au contraire une barrière à faire tomber. Et voilà ce qu'il y a quand même. Dans l'amont, il y a le fait que, malgré tout, l'alliance politique de ces trois partis rendait ce programme un petit peu, c'était le plus petit commun dénominateur, quand même, qui l'a emporté dans le programme préalable. Mais en revanche, le mouvement social savait très très bien quels étaient les autres éléments des programmes socialistes et communistes. Et là, c'est à toi.
Rapidement, parce que il y a deux choses. À la fois, il y a le projet, bien sûr, qui est élaboré entre les différentes associations et les trois grands partis, mais il y en a d'autres. Hein. Même si la SFIO avait exclu les néo-socialistes 1933-34, hein, ceux qui étaient pour le plan et qui regardaient de ordre autorité-nation, pour reprendre un petit peu le vocabulaire qu'ils pouvaient avoir, ils vont quand même rejoindre le Front populaire. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a plusieurs organisations qui sont présentes. Alors, ça se résume par « Pain, paix, liberté ». Bien sûr, ça, c'est le grand slogan, c'est le mot. Donc, janvier 36, chaque organisation se présentera sous cette bannière. Le pain, on voit très bien pourquoi. C'est répondre à la crise économique et sociale que j'évoquais tout à l'heure. La paix, on voit très bien pourquoi, parce que c'est la réponse au fascisme. Le fascisme, c'est la guerre. N'oublions pas que depuis 1935, il y a l'Éthiopie. C'est-à-dire que l'Italie mussolinienne et fasciste veut reconstituer l'Empire romain. C'est le côté. Et d'ailleurs, Mussolini va même réaffirmer en 1936 l'existence de l'Empire romain, Mare Nostrum, etc. Avec la Libye, l'Éthiopie, etc. Puis la Tunisie qui l'intéressait beaucoup, hein, si possible. Bon, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'antifascistes en Tunisie, réfugiés et français qui étaient dans la logique Front populaire. Et troisième point, la liberté. Les libertés. Ben, les libertés face, oui, aux menaces fascistes et face, en fin de compte, au modèle républicain. Et c'est ce minimum commun, en quelque sorte, ce programme commun minimum. Voilà, c'est peut-être un peu ça qu'il faut avoir, un programme commun minimum sur lequel on se retrouve. Alors, oui, bien sûr, il y a des mesures qui étaient voulues, qui étaient prises, qui étaient. Et en particulier chez Léon Blum, il faut relire son discours de politique générale. parce que c'est là où on a ce qui est décliné et ce qui est mis. Et dans ce discours de politique générale, il emploie une formule que j'aime beaucoup, l'idée de la force tranquille. Vous savez, il y a un publiciste en France qui a dit qu'il avait découvert ça, etc. Ce qui permet d'aller dans... qui amène de l'eau au moulin de ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est pour ça. Non, c'est Léon Blum qui le dit. Et quand on reprend ce que définit Léon Blum, c'est d'être dans la légalité républicaine, qui fait la distinction entre, ça a été dit, la conquête, l'exercice du pouvoir, et qui n'est pas là pour instaurer le socialisme. Lui souhaiterait instaurer le socialisme, mais sauf qu'il est dans une alliance politique où vous avez des démocrates chrétiens, bah oui, la Jeune République fait partie du Front populaire, où vous avez des radicaux, où vous avez 90 associations ou partis qui ont signé ce Rassemblement populaire et Front populaire. Et que par conséquent, il restera dans la légalité républicaine. En revanche, comme président du Conseil, il demande qu'on accélère le processus des lois et qu'on soit dans une logique véritablement de transformation par la loi. Et c'est ça la nouveauté qu'amène le Front populaire. C'est que d'abord, on a. Alors on pourrait dire, ça c'était Nicolas Rousselier qui l'avait dit, on avait rénové Matignon. C'est vrai, Matignon venait d'être rénové au sens même du bâtiment et du lieu, et que lui réside véritablement à Matignon, et il décide, en fin de compte, de faire une politique offensive de. Je vais prendre des mots qui ne sont pas de la période, mais de changer la vie par la loi, et avoir un train de réformes accélérées et dans une logique aussi, comment dirais-je, dans une logique aussi de rôle interventionniste de l'État. Parce que faut jamais oublier que les idées, elles circulent et qu'on est au moment du New Deal aux États-Unis. Et que quelque part, vous avez cette logique interventionniste de l'État qui va se faire aussi avec le Front populaire. Donc, rapidement, le programme ou le projet... C'était dans un arc républicain progressiste mettant en œuvre la sociale à côté de la libérale, ça, il n'y a pas de souci, mais pas en dehors de ce champ républicain, et pas d'instaurer le socialisme, même s'ils étaient marxistes, même s'ils restaient à laisser Fillon et chez Blum, mais c'est des contradictions que l'on va voir apparaître. Voilà, rapidement, pour le résumé concernant le projet. Et autre chose, c'est que chaque parti, au premier tour, présente ses candidats sous sa bannière. Et que l'idée, et qui est fortement républicaine depuis longtemps dans l'histoire de la Troisième République, c'est que celui qui arrive en tête, eh bien, les autres se désistent pour lui. Le désistement républicain. Et ça... Pour certains, ça n'a pas été facile. Il y a des radicaux qui n'ont pas voulu se désister pour des communistes. Il y a eu des formes de dissidence ou de vote ailleurs. Mais ça amène effectivement à cette majorité. Alors majorité, on ne l'a pas dit. Si on cumule les voix de 36 et qu'on regarde celle de 32, la législature d'avant, c'est quelques centaines de milliers de plus. C'est entre 300 et 400 000 de plus, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, ça doit être quelque chose comme ça. Il y a une poussée, sauf que c'est le rapport de force qui change. La SFIO passe devant les radicaux. Et le PC fait 15%. Et il a 72 députés. Enfin, 70 puis 72, s'il y a des élections complémentaires après. Alors qu'il attendait d'en avoir 10, comme il avait auparavant. Et donc, là, la donne, elle change. Elle change totalement. C'est dans cette logique de... redistribution des forces politiques que permet aussi de se comprendre ce qui se joue à ce moment-là. Même si, et je l'ai dit et je le redis, le Sénat a été sur des positions très dures face à Léon Blum. Et puis, pour votre question, ben je vais dire, n'oublions pas que la revanche des patrons, c'est tout de suite. N'oublions pas que la revanche du patronat, c'est tout de suite. D'ailleurs, la CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, se transforme à l'été 36 en Confédération Générale du Patronat Français. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et son nouveau chef, Gignoux, va dire « Patron, soyez des patrons ». Et donc on va rogner. On va rogner sur tous les acquis. Et au bout d'un an, puisqu'il y avait les conventions collectives qui devaient être resignées au bout d'une année, dans plein d'endroits, elles ne sont pas resignées. Et puis, au moment où vous le dites, au moment où vous avez travaillé dans c'était la métallurgie, hein, c'est ça. Ben, vous avez quand même ce qu'il y a de pire du patronat français, l'UIMM, qui, à partir des grèves de 1936, va mettre en œuvre des caisses noires pour briser le mouvement ouvrier, va créer des syndicats jaunes, désolé de le dire comme ça, ou boutiques, pour briser le mouvement ouvrier, et qui fera tout pour effectivement revenir sur les 40 heures et rajouter des heures. Et là, j'aimerais bien, parce que ces archives de l'UIMM, en fait, elles sont au Creusot. Elles sont à l'Académie François Bourdon. Ouais. Et j'aimerais bien qu'un jour une thèse prenne à bras le corps cette question de l'UIMM dans le rapport de force qui existe dans le pays. Voilà.
Deux remarques. Une remarque sur le fait que il y a une histoire. Alors, je ne sais pas si elle est à écrire. Je ne voudrais pas dire que ça n'a été fait loin de là, mais de la revanche. Oui, non, mais pas forcément dans tous les domaines. Par exemple, là, tu parles de la revanche sur le mouvement social, mais il y a aussi une revanche par rapport aux lois de laïcisation de 1905. Et tous les reculs, parce que sous Georges Pompidou, d'ailleurs, très fortement par rapport aux lois des années 50, qui stabilisent, mais qui, en fait, ne sont pas stabilisées. Parce qu'il y a toute une série de décisions qui sont prises, etc. Par exemple, il ne devait pas y avoir la possibilité de créer une école privée, ce qui en France veut dire catholique, hein, à 95%. Libre, si tu veux. S'il y avait concurrence, s'il y avait déjà dans la même zone, le même bassin scolaire, s'il y avait déjà une école publique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas appliquées et qui ont été des reculs constants. Bon, ça, c'est autre chose. Ou des revanches constantes. Hein. C'est-à-dire que... Non, la loi de 1905 n'est pas une loi d'apaisement. Mais ça, c'est notre discussion. Elle a été constamment combattue. Et dès qu'il y a des majorités de droite qui sont des majorités de droite dures, etc., elle est amoindrie régulièrement. Bon, ça, c'est donc une histoire de la revanche, ce serait intéressant. Alors, l'autre élément, dans les deux questions qui étaient intéressantes que tu signalais, c'est que il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé, c'est celui de l'État. Et là, ce qui se passe avec le Front populaire, c'est que c'est une première, une seconde, parce que les radicaux socialistes d'avant 1914 le sont un peu, je pense à Ferdinand Buisson, mais l'idée de la construction d'un État qui est le seul, ou qui serait le meilleur garant pour l'avancée de la société. Et cette idée que l'État peut être et doit être un État démocratique et social, ça, c'est quelque chose qui, là encore, connaît des remises en cause, mais qui est au cœur. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien. Tout à l'heure, on parlait des réformes culturelles autant que sociales. Il n'y a pas, avant Jean Zay, la seule politique culturelle de l'État, c'est l'école. Parce que l'école, c'est un média culturel, hein, fondamentalement. Donc, et il est au cœur du Paris républicain, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, là, il y a Jules Ferry, qui est un libéral économique, alors complètement orthodoxe, va créer un corps de fonctionnaires avec les institutrices et les instituteurs, ce qui est totalement inorthodoxe par rapport à sa famille politique. Et lui-même. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'école, c'est la façon dont on peut fabriquer des petits républicains. C'est-à-dire que l'école Jules Ferry, elle est très politique. Il ne faut pas raconter qu'elle est apolitique. Elle est républicaine. Et républicaine en 1880, c'est politique. C'est ultra politique de vouloir fabriquer des petits républicains. Et parce qu'il a cette idée politique fondamentale, de conviction, il va aller contre ses convictions économiques, du libéralisme économique, il va donc créer des corps de fonctionnaires. Et c'est le début. Mais du coup, à l'époque de Jean Zay, il n'y a aucune politique culturelle, par exemple, de la commande de l'État en culture n'existe pas. La seule commande de l'État qu'à la Troisième République avait faite, elle est liée à une amitié particulière qui était celle de Clémenceau par rapport à Claude Monet, et il crée l'orangerie. Mais c'est du mécénat en utilisant l'État. De fait, mécénat presque privé hein, de Clémenceau qui, voilà, une vraie décision verticale, va créer ça. Avec Jean Zay, la commande d'État commence. Il y a, et son bureau, on parlait des lieux, va être entièrement rénové avec de la commande d'État. Il commande à tel artiste, tel élément du décor, du mobilier, etc. Il va créer aussi tout ce qui va être ensuite le mobilier national et compagnie. Donc on a une invention d'un État qui est un État culturel parce qu'il se veut être un État social et culturel. Et qui, dès lors, va créer des statuts dans l'État. des statuts de fonctionnaires rénovés, etc., etc., ou des statuts de métiers dans le culturel qui n'existaient pas. Donc l'idée que l'État est un partenaire avec toute la démocratie sociale, mais que par ailleurs il a à être un acteur majeur dans l'économie, mais aussi dans la culture, ça aussi c'est une invention de ce qui est un moment et qui est devenu une période, qui est le Front populaire.
Juste pour aller dans ton sens, et je ne vais pas rallonger trop, mais un État interventionniste, un État qui donne une ligne générale, on va dire, peut-être, mais en tout cas, c'est clair, l'Office national interprofessionnel du blé, ça change la vie des producteurs et des paysans. Des paysans qui n'étaient pas forcément proches du Front populaire disent bah, le NIB nous a sauvés. La création de la SNCF, les enjeux de la nationalisation des usines d'armement, parce que contrairement à une légende que Vichy a distillée depuis 40, 41, 42, et heureusement Robert Franck et d'autres étaient revenus là-dessus, en 39, la France avait plus de chars d'avions que l'Allemagne. C'est la question de comment on les utilise. Le seul qui a su utiliser les chars de manière moderne, c'est le général de Gaulle dans son offensive des Ardennes en 40, mais le reste, c'est lié à l'état-major. C'est pas lié au fait qu'on était sous-armé. Et contrairement encore à ce que l'on peut lire dans une presse particulière de nos jours, qui véhicule en fin de compte ces mythes de Vichy et qui réifie cette vision-là. Il y a eu un rôle donc d'intervention de l'État. Et ça, c'est fondamental.
Alors,
notre question, oui.
Alors, le temps file parce qu'on vous a donné rendez-vous aussi à la Cinémathèque de Toulouse à 20h30. Vous l'avez vu que de la Révolution française de 1789 jusqu'aux années 80, et puis surtout sur un enjeu aussi géographique qui fait voyager de la Chine aux colonies françaises, il y a un renouveau historiographique qui est proposé dans cet ouvrage dirigé par Jean Vigreux et Serge Volikov qu'on vous propose de découvrir avec les autres ouvrages de nos historiens Jean Vigreux et Olivier Loube, qui sont disponibles à la vente grâce à notre partenaire Ombre Blanche. Jean et Olivier acceptent de signer aussi les ouvrages.
C'est pas qu'on accepte, c'est qu'on est ravis.
Et c'était... on vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à 20h30 à la Cinémathèque de Toulouse pour voir le film « La vie est à nous » et aussi le 3 juillet pour venir découvrir l'exposition « Survivre à Auschwitz ». Merci, bonne soirée.
Merci à tout le monde, merci.
Merci à vous et merci au musée. Hein. Merci au musée.
Mémodio, une mémoire sonore.